7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI et la parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique aujourd'hui avec le retour du coach Didier Akoté. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Directeur général d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines, vous passez chaque mois, ai-je besoin de le rappeler, chez 7 milliards de voisins pour conseiller les jeunes diplômés ou ceux un peu plus expérimentés mais qui se heurtent à des difficultés. Alors bien sûr les voisins et les voisines, si vous avez un projet dans le domaine des services, de la construction, de l'agroalimentaire, mais dans la culture aussi, dans le domaine du social
aérien.
Ou du fret aérien, pourquoi pas. Didier Akoté, vous écoutez les voisins avec attention, les voisines, vous détectez surtout les failles des projets et puis vous répondez à leurs questions. Donc attention, les futurs entrepreneurs, vous devez évidemment, quand vous passez à l'antenne, être capable de présenter clairement un projet mûrement réfléchi et puis surtout de nous convaincre. Un exercice très utile à mon avis ensuite pour aller voir les banques. Hein. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 20 22 71 71. Didier, vous êtes venu avec un grand frère entrepreneur.
Un grand frère de ces jeunes qui nous écoutent, entrepreneur, qui a fait fortune et qui la cache si bien.
Vous hein, nous
notre ami Régis Facia, que DHL a copié honteusement, puisque c'est le patron de la messagerie en Afrique francophone notamment.
Top Chrono.
Qui va se présenter, Top Chrono.
Régis Facia, vous avez créé Top Chrono il y a 20 ans, c'est ça. Donc, société spécialisée dans la distribution de courriers qui fête ses 20 ans cette année, basée à Cotonou. Vous êtes présent au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Niger, et puis vous êtes aussi vice-président du patronat au Bénin. Et quand on dit le DHL africain, ça vous plaît pas?
Ah ben non, chaque fois que vous me le dites, je vous répète toujours que c'est plutôt DHL qui est le Top Chrono européen.
Ben voilà, je vous l'avais dit.
Lorsque Didier dit que je suis son grand frère, non, c'est lui qui est mon grand frère. Bon. Et c'est lui que j'écoute tous les mois pour essayer de me recycler et de réaménager toute ma structure et ma stratégie de management.
Vous êtes prêt en tout cas à jouer le jeu aujourd'hui auprès des projets, des voisins et des voisines, de les écouter et puis de leur faire partager un peu des difficultés que vous avez rencontrées tout au long de vos 20 ans.
Oui, mais le problème, c'est qu'une fois que Didier a parlé, je ne sais pas ce que je pourrais dire après.
Et moi, je craignais la même chose, mais...
si vous commencez à vous faire des politesses, alors... Allez, appelez-nous, les voisins, les voisines, vos projets. Nous vous écoutons. Vous devez être, bien sûr, convaincants et nous tentons de vous conseiller. 33 1 84 22 71 71. Régis Facia, rappelez-nous tout de même dans quel contexte vous avez créé Top Chrono, l'idée de départ.
Mais c'est vrai que Top Chrono, c'était en 95, dans un environnement extrêmement difficile. Hein. Vous savez, je sortais d'école, je fais une école de commerce, et je me suis rendu compte que dans mon pays, le Bénin, il y avait une grosse difficulté à assurer la distribution de courriers, ce qu'on appelle la messagerie. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette entreprise. J'ai conçu le business plan moi-même, parce que c'était ma formation initiale.
Et vous êtes sorti de l'école, vous vous êtes dit tout de suite, je serai entrepreneur.
Non. Déjà quand j'étais étudiant, à l'école de commerce, à Grenoble, oui, effectivement, c'était pour moi un objectif. Je voulais vraiment être chef d'entreprise. C'était absolument très, très clair dans ma tête. Et j'ai été embauché dans une entreprise américaine comme directeur commercial. Et puis, au bout de 8 mois, je voulais réaliser mon vœu, mon objectif. Et vous savez, j'étais mitoyen à l'UNICEF, qui était un gros organisme des Nations Unies qui déployait de grosses voitures pour aller faire de la livraison de courrier. Et puis un jour, un chauffeur a perdu une enveloppe. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, plutôt que de dépenser autant d'argent, pourquoi est-ce que je n'imaginerais pas un concept comme celui-là? C'était en 95.
Ouais, pas besoin d'une berline pour livrer un courrier.
Non, pas du tout. Alors, en 95, même en France, la messagerie était complètement inexistante. Hein, donc, on parle bien des années 95. Et c'est comme ça que j'ai conçu le business plan. Et j'ai été voir les banques. Évidemment, aucune banque ne voulait me soutenir, me financer.
Surtout un jeune diplômé.
Je me suis dit, écoute, c'est pas compliqué. J'ai quand même des parents, hein, donc j'irai voir mon papa et ma maman. Je les ai vus. Ils ont estimé que c'était une honte de créer une entreprise, en plus une entreprise comme celle-là, et qu'il fallait que je continue d'avoir une très belle carte de visite, de directeur commercial d'une grosse boîte américaine. Eh bien, c'est comme ça que je me suis rendu complètement compte qu'en réalité, il est extrêmement difficile en Afrique, aussi bien de par les banques que de par la structure familiale, de créer. Eh bien, ma sœur, Madame Copello, Carole et son mari m'ont donné généreusement, à l'époque c'était le franc français, 20 000 francs français, 3 000 euros. 2 millions de francs CFA. Et c'est comme ça que j'ai créé Top Chrono avec 2 millions de francs CFA.
Avec
et ça
si
a fait
peu.
Son petit chemin.
Ouais.
Voilà.
Donc les rendez-vous avec les banquiers, on a compris, ça s'est mal passé. À l'époque, il fallait plusieurs mois pour créer une entreprise au Bénin.
À l'époque, il fallait quand même près de 6 à 8 mois pour créer l'entreprise. Aujourd'hui, ça a complètement évolué. Dans le cadre du patronat au Bénin, en tout cas, nous avons extrêmement travaillé. Et aujourd'hui, quand je prends un pays comme le Bénin, on crée une entreprise en moins d'une journée avec un montant extrêmement réduit.
Évidemment,
à l'époque,
après,
il fallait 1 million de francs CFA pour créer l'entreprise.
Il faut faire démarrer l'entreprise. Hein. Alors,
voilà.
Vous allez bien sûr nous faire partager à la fois votre expérience et les conseils que vous pouvez donner aux auditeurs. Didier Akoté, je voudrais, avant qu'on donne la parole à un premier projet, signaler qu'Afrique Talent, créé par Afrique Search, donc le rendez-vous en Côte d'Ivoire, c'est 19 et 20 juin, donc
absolument.
Des jeunes diplômés, des très expérimentés.
Des seniors, des juniors, rendez-vous à Abidjan.
Qui rencontrent des grosses boîtes.
Exactement. Donc on a beaucoup d'opérateurs télécoms, le marché reprend, des banques, de l'agro-business. Donc c'est le grand rendez-vous de l'emploi en Afrique de l'Ouest.
Si on veut s'inscrire là,
sur le site africtalent.com pour y participer.
Alors si vous permettez, par rapport à Afrique Talent, j'étais l'année dernière et j'ai fait la queue pendant 3 heures de temps.
On n'a pas voulu l'embaucher, il était trop qualifié.
J'ai fait 3 heures de queue et je ne sais pas quelle stratégie trouvera notre ami Didier cette année pour que le maximum de personnes
victimes de son succès. C'est comme
c'était horrible.
Allez, dans quelques instants, on donne la parole à un premier projet, Moussa. Mais juste avant, allez, on a envie d'une petite dédicace pour Didier. Vous êtes toujours fan de Charlie Wilson.
Ah bah oui, ouais. Voyons. C'est mon idole.
On a cru voir ça quelque part sur les réseaux sociaux. Allez,
tiens.
Petit Charlie Wilson pour bien démarrer.
Superhero woman, you're so unbelievable. The magic that I feel around you brings me to life every time. More than physical, the aura that I see around you, irresistible. Sexier than models, you are finer than in Vogue. The magic that I feel around you brings me to life every time. Girl, don't it feel good?
Somebody Loves You, Charlie Wilson, ça c'était pour vous mettre en train. Hein.
La meilleure des surprises que vous m'avez faites depuis que cette émission existe.
Didier
Akoté
et Régis Facia, entrepreneur, chef d'entreprise, 2 coachs aujourd'hui pour le prix d'un. Et nous donnons la parole à un premier projet. Moussa nous appelle donc au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Moussa.
Bonjour.
Vous êtes en ligne à Abidjan, vous vivez en fait entre la France et la Côte d'Ivoire, vous avez 34 ans, vous êtes consultant en informatique, vous avez fait des études d'ingénieur à Limoges, entre autres, vous avez travaillé à Paris. Alors, votre entreprise a déjà démarré, c'est une petite entreprise, une start-up hein, qui a 3 ans, qui est très modeste encore, qui vend des images et des illustrations africaines pour des entreprises de com ou de médias. Donc, ça s'appelle Yelnepix, c'est comme ça qu'il faut prononcer ?
Yelnepix,
pardon. Donc une start-up de banque d'images.
Exactement.
Alors c'est un marché qui est estimé aujourd'hui à plusieurs milliards de dollars annuels, la banque d'images. Hein. Toutes les entreprises en ont besoin. C'est un marché qui est surtout occidental pour le moment. Vous avez démarré, vous, il y a 3 ans, un peu par hasard, je crois, Moussa.
Exactement. En fait, tout simplement... Une amie qui travaillait dans la com à Abidjan un jour m'appelle et me dit « Moussa, j'ai besoin d'images pour un appel d'offres ». Et je me suis posé la question de savoir comment, pour un appel d'offres à Abidjan, les gens sont obligés de passer par Paris pour acheter des images sur des plateformes occidentales. Et donc j'ai commencé à fouiller, je me suis renseigné et effectivement je me suis rendu compte que le marché des banques d'images concernant l'Afrique était totalement désert. Il y avait un vrai besoin, il y avait un vrai manque de représentativité de l'Afrique au niveau des images commerciales, conceptuelles. Et l'idée de Yelnepix est partie de là.
Aujourd'hui,
donc
vous avez 4
photographes.
C'est ça, qui travaille avec vous à la prestation en fait, hein, les photographes.
Exactement.
Vous avez 4 associés.
Oui, exactement. J'ai Maguette Mbo qui est sénégalais. l'ex-Pau Black qui est béninois et Céline Crépin qui est française. Donc on s'est associés, voilà, des associés m'ont rejoint, on a créé Hélène Pix et aujourd'hui on essaie de transformer l'image de l'Afrique en proposant de belles images commerciales, éditoriales et qui sont surtout prises par des photographes vivant sur le continent. Mmh. C'est un peu la particularité, on veut redonner cette image vue par les Africains pour une communication africaine.
Ouais. En fait. Alors votre entreprise Hélène Pix n'a pas de dette, hein, mais vous dégagez pas encore de bénéfices, ça fonctionne sur capitaux propres, tout est réinvesti, c'est bien ça ?
Voilà, c'est de l'autofinancement, clairement, parce que au tout début de l'entreprise, nous avons essayé de contacter des fonds d'investissement, mais c'était fastidieux, on a perdu beaucoup de temps et on s'est dit, bon, on va se reconcentrer sur le business, on va plutôt développer notre business et par la suite, on pourra fonctionner tout seul ou les investisseurs sérieux reviendront à ce moment. Donc aujourd'hui, l'entreprise n'est pas déficitaire, l'entreprise n'a pas de dette, nous réinvestissons. Les bénéfices, les entrées dans la production, dans l'amélioration du site, dans le développement de l'entreprise.
Mais alors, quelles sont vos difficultés, vos questions ? Finalement, pour le moment, vous n'arrivez pas réellement à grossir.
Oui, parce qu'on est une start-up, on vient à peine de commencer, donc le processus est en cours, et d'ailleurs, c'est d'où ma présence à Abidjan, pour essayer un peu de rencontrer des grands comptes, etc. Donc, moi, j'avais une question, justement, pour Monsieur Akoueté. Bonjour, déjà, Monsieur Akoueté.
Bonjour, Moucha.
J'ai eu le plaisir
Régis
de suivre
Fassia,
au Médic à Abidjan.
Oui, ah oui, il y a une semaine.
Ouais, belle prestation d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Alors vous avez aussi un deuxième coach hein, aussi pour vous assister aujourd'hui. Moussa, un chef d'entreprise donc qui a créé Top Chrono il y a 20 ans au Bénin et qui est présent dans plusieurs pays de la sous-région maintenant. Régis Fassia qui est dans le studio également.
Bonjour
Moussa. Régis Fassia aussi également.
Donc nous vous écoutons Moussa concernant vos difficultés.
Moi j'avais une question en principal, c'était au niveau des grands comptes, parce qu'aujourd'hui Hélène Pix, au-delà de la banque d'images, nous avons créé un ensemble de services B2B adressés aux grands comptes africains, c'est-à-dire que des prestations spécifiques, etc. Et l'idée c'était de demander à Monsieur Fassia et Monsieur Akoueté, selon eux, comment on peut intégrer rapidement ou plus facilement les grands comptes africains, parce que c'est un peu fastidieux, il faut envoyer des mails, il faut essayer de contacter, c'est difficile de contacter le top management, les gens qui ont le pouvoir de décision.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par grands comptes là ? Vous pensez à des institutions panafricaines ou à des multinationales hein, quoi ?
Des institutions panafricaines, des multinationales, que ce soit la Banque africaine de développement, que ce soit la FEDEAO, que ce soit Ecobank, voilà, des grandes structures africaines, des grandes entreprises africaines qui ont des gros besoins de communication, etc.
Et qui pourraient être des clients et vous n'arrivez pas à les toucher ou quoi ? Ou c'est trop lent ?
On en touche, mais un peu lent à mon goût, on en touche. On aimerait en toucher beaucoup plus et plus rapidement et on aimerait aussi avoir peut-être des astuces pour faciliter ou accélérer l'accès à ces décisionnaires pour déclencher le processus de fidélisation.
Alors il y a d'autres questions qui vont suivre, peut-être déjà un premier éclairage.
Oui, alors sur le principe du projet, c'est un excellent projet parce que nous-mêmes nous sommes confrontés régulièrement à cette à ce besoin d'image africaine qu'on ne trouve pas assez
pour faire des
lorsqu'on fait des plaquettes, lorsqu'on aide des clients sur des projets. Alors, je ne suis pas sûr que les grands comptes soient la cible la plus efficace pour vous aujourd'hui, parce qu'en réalité, que ce soit Ecobank, MTN, enfin ou ces grands groupes, en termes d'image, leur consommation relativement limitée. Par contre, si vous passez par des agences de pub, des agences de com, des régies, donc des prestataires qui travaillent pour ces grands comptes, comme je suppose une de vos amies vous a demandé une première fois, vous devrez aller beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, une entreprise, bon, à part ceux qui communiquent beaucoup, c'est-à-dire les opérateurs télécoms, l'agro-business, ils ont d'abord une banque de données eux-mêmes, mais souvent ce sont les agences qui leur conçoivent les campagnes, qui leur font le rapport d'activité, le rapport annuel, et qui achètent les images. Donc, moi, je me serais d'abord concentré plutôt sur cette cible d'agences même en ligne, qui achètent en ligne des images, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des technologies pour aller tellement plus vite et que vous avez quelque chose de complètement dématérialisé. Donc, mon focus serait d'abord sur cette cible. Maintenant, les grosses entreprises, alors, vous savez, sont aussi très sollicitées, notamment par les agences, pas tellement par les vendeurs d'images en direct. Il y a un concept marketing qui me plaît bien, c'est justement de leur offrir des images. Et souvent, dans les sièges de ces grosses sociétés, comme chez même monsieur Régis Facia, de Top Chrono, si vous envoyez des images décalées à sa compagnie, qu'il peut afficher fièrement dans son lobby, je suis certain que demain il pensera à votre agence pour acheter des photos pour illustrer ses campagnes et illustrer ses documents. Donc, au lieu de chercher à vendre forcément des images à ces grosses compagnies, je pense qu'il faut une approche marketing un peu décalée, un peu différente.
Régis Facia, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais en trouvant surtout des prescripteurs. Est-ce que ce sont les prescripteurs qui vous permettront d'aller beaucoup plus vite, à mon avis?
D'abord, Régis Facia, Moussa, pour son idée. C'est une extraordinaire idée. Et d'ailleurs, son idée montre qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner en termes de marché occidental. Avec les nouvelles technologies, on sent bien que le marché est complètement universalisé. Et c'est vrai que l'idée est extrêmement géniale et très novatrice. Alors, en revanche, la démarche qui consiste aujourd'hui à cibler en priorité les grands comptes me paraît un peu tôt. D'abord, j'ai l'impression que Moussa fait l'impasse sur la notion temps, parce qu'il faut du temps pour se faire connaître, du temps pour faire en sorte que les entreprises qui sont potentiellement intéressées par le produit se rendent bien compte que c'est une entreprise sérieuse. Et puis, monsieur à côté l'a dit, généralement, pour ce type de prestation, il faut passer par les régies.
C'est ça. Alors, Moussa vous envoie, par exemple, des images très originales pour vous démarcher.
Justement,
c'est ça, ce que
Didier
dit. Vous seriez intéressé?
Absolument. Et non seulement je serais intéressé, étant donné que moi, je suis dans une structure d'entreprise qui a beaucoup de connaissances de collègues entrepreneurs, eh bien, ça fera tâche d'huile. C'est comme ça que Moussa pourra faire connaître son activité. Mais dans tous les cas, il est important qu'il ne fasse pas l'impasse sur la notion de temps.
Il nous reste très peu de temps, Moussa. Et je voudrais que vous puissiez poser les autres questions rapidement, Moussa.
Oui, j'avais aussi une seconde. Mais avant, j'avais juste apporter une petite précision, c'est que effectivement aujourd'hui notre cible prioritaire c'est les agences de communication, les freelances graphistes, les directeurs artistiques, etc. Dans le cadre de ce développement que nous avons mis en place un ensemble de services qui sont vraiment taillés pour les grosses entreprises et qui vont au-delà de la banque d'images, en fait. Voilà.
Concernant la concurrence, vous avez des inquiétudes concernant la concurrence européenne qui arrive sur le continent africain?
Je dirais pas des inquiétudes, mais j'observe, parce que on fait beaucoup de benchmarks, j'observe le marché et effectivement, étant un nouvel acteur sur le marché, nous voyons que les grands s'organisent, c'est-à-dire que les grands qui ont des milliards d'euros de chiffre d'affaires, etc., qui sont un peu partout, s'organisent et commencent à regarder le continent africain au vu de tout ce qu'il y a comme développement économique.
Mais ils ne le connaissent pas aussi bien que vous, mais évidemment ils sont plus gros, c'est ça.
Voilà, ils sont plus gros, voilà, ils ont plus de mais ils ne le connaissent pas, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne le connaissent pas comme nous. Donc selon monsieur à côté, monsieur Facias, comment appréhender un peu ces gros mastodontes à venir par rapport à la concurrence sur le marché du continent? Je pense que vous avez dû passer par là aussi. Bien donc sûr. Votre retour d'expérience peut être très intéressant pour nous.
Alors, tout ce que je peux vous dire, Moussa, c'est la chose suivante. Premièrement, dans un premier temps, je pense que c'est prématuré de cibler les grosses entreprises. Ça me paraît extrêmement important parce que vous avez quand même besoin de références. Les entreprises, malheureusement, n'ont pas attendu que vous implantiez pour avoir besoin de vos services. Donc, elles ont recours déjà à d'autres prestataires qui, malheureusement, étaient sur le marché avant vous. Donc, il faudra faire vos preuves. Il faudra travailler avec des régies pour essayer de vous faire connaître et surtout ne pas hésiter à être présent dans les salons, dans les forums qui parlent de votre activité. Moi, je pense qu'avec le temps, vous arriverez à convaincre la plupart des entreprises sur votre activité et progressivement réussir à pénétrer ce marché de grosses entreprises qui existent sur la place.
Par rapport aux mastodontes qui arrivent, c'est valable dans tous les secteurs, hein, dans le secteur de monsieur Facia, dans notre secteur, dans le cinéma, bref. Votre force, c'est justement la connaissance de l'Afrique et de pouvoir proposer des images complètement inhabituel, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et moi, je le sais, parce que souvent, on cherche des images parfois décalées en Afrique, qu'on ne trouve pas. Parce que, les gros mastodontes, ça reste dans les grandes villes, ou alors c'est très touristique, c'est des photos, c'est des clichés, en guillemets, basiques. Et vous, votre force, c'est justement d'avoir des images extrêmement décalées, que ces multinationales n'ont pas, et c'est là que vous allez les battre en fait à plate couture, et on le voit dans d'autres secteurs d'activité.
Moussa, je suis désolée, nous devons rendre l'antenne, en tout cas bravo pour ce projet à qui on souhaite évidemment une longue vie. Donc Moussa, merci pour votre appel. Je rappelle que votre entreprise vient tout juste d'être créée, c'est une start-up qui a à peine 3 ans d'existence, Yen Lepix. Allez, bon vent sur le marché. Didier Côté, Régis Facia, vous restez avec nous, on se retrouve juste après.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bonjour, bienvenue plutôt et rebonjour si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. La parole, vous le savez, chaque mois est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique. Aujourd'hui, avec les conseils du coach Didier Akouété d'Afrique Search. Et puis nous avons également le plaisir d'accueillir un voisin entrepreneur béninois, Régis Facia, qui fête les 20 ans de Top Chrono, un petit DHL africain.
Ah, donc, je vous le refuse toujours, c'est Top Chrono qui est le DHL.
Une entreprise privée qui livre du courrier à domicile, hein, c'est bien ça, et des paquets bien évidemment, ce qui a pu être commandé sur internet, notamment sur des sites de shopping. Vous avez lancé votre entreprise à une époque où d'ailleurs peu de gens croyaient au poste privé, et bien sûr beaucoup de difficultés à surmonter. Juste avant le flash, on avait ce super projet de Moussa qui a monté une start-up entre la Côte d'Ivoire et Paris, avec ils sont 4 associés de plusieurs pays du continent africain d'ailleurs. Formidable énergie pour cette start-up, c'est une start-up de banque d'images, et vous vouliez juste rajouter un petit commentaire chacun, je crois par rapport au nom déjà de la start-up.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi,
j'arrive
il y a une
pas
chose
à la prononcer, à chaque fois je me trompe,
il y a l'NFX. Justement, il y a un problème, enfin il y a une notion qui est extrêmement importante quand on veut créer une entreprise, c'est le nom. Il faut qu'il y ait un nom qui accroche. Il faut qu'il y ait un nom qui
Top
soit facile.
Top Chrono, ça claque, c'est ça.
Enfin, je sais pas, moi je suis mal placé pour le dire. Si vous le dites, je vous crois volontiers. Mais c'est vrai que Top Chrono, ça a facilité les choses. Mmh. Et c'est vrai que lorsque les gens veulent créer, il faut qu'ils tiennent compte quand même de ce que l'environnement
Donc,
a besoin
Yalen
d'avoir
Pix,
un nom qui accroche.
Ça vous plaît pas trop?
Non, moi, je trouve ça un peu lourd. S'il peut changer le nom et avoir un nom un peu plus accrocheur,
bon,
pourquoi pas.
Didier Akouété, vous avez un autre commentaire aussi à faire. Tous les deux, vous l'avez beaucoup encouragé, hein, Moussa, en première.
Parce que c'est un beau projet, beau projet.
Si sur les, non, il y a une concernant la banque d'images elle-même, les photos.
C'est ça son fonds de commerce, donc il faut qu'il arrive à recruter 2-3 photographes pendant 2 mois.
Là, il les paye à la prestation pour le moment.
Non, il faut qu'il arrive à trouver un peu de ressources. Et c'est en ça que l'histoire de Régis est intéressante, du Friends and Family. Il faut qu'il recrute 2-3 photographes qui vont sillonner le continent pendant 3 mois, qui reviennent avec des images fabuleuses.
Donc il faut à nouveau du cash alors, hein, pour avancer
pour
les salaires.
C'est pour ça que je dis Friends and Family, ça. Peut-être un Régis peut abonder dans un petit fonds, puisqu'il est très fortuné. Pendant 3 mois, il fait des photographes.
Je ne sais pas quel banquier l'a rencontré, mais il a l'air de connaître beaucoup de choses.
Bon, ouais, vous nous appelez tout, les voisins, les voisines. Alors après ce projet business, cette start-up créée entre la Côte d'Ivoire et la France, nous allons donner la parole à une voisine et un projet nettement plus social, un projet humanitaire. Nous sommes en ligne avec Jocelyne qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Jocelyne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde.
Jocelyne, soyez la bienvenue chez 7 milliards de voisins. Vous avez 2 coachs aujourd'hui, Régis Facia, entrepreneur béninois, Didier Akouété que vous connaissez bien. Vous avez 26 ans, Jocelyne, vous êtes à Goma, à l'est de la RDC, et votre projet est un projet humanitaire, créer un foyer pour des filles victimes de violences sexuelles. Ce foyer s'appellera Hope, et il abriterait, je dis bien il abriterait, parce qu'évidemment pour le moment c'est loin d'être encore abouti, il abriterait 50 filles de 5 à 15 ans qui ont été victimes de violences sexuelles et qui sont sans abri. Jocelyne, vous êtes vous-même très impliquée pour des raisons personnelles, hein, sur ce projet.
Oui. Bon, je dirais que depuis mon enfance, j'ai été défenseur des droits de l'enfant, et dès que j'ai vu que le droit de la fille était vraiment beaucoup bafoué dans ma région, je me suis orientée vers la défense des droits de la fille. C'est ainsi que je voudrais créer ce foyer pour filles, pour mettre en valeur, donc j'ai envie de valoriser et transmettre mes connaissances pour protéger et faire connaître les droits de la fille. Mmh. Donc c'est ça.
Vous avez vous-même été victime de violences sexuelles, hein, Jocelyne, je crois qu'il faut le dire également.
Oui, donc je dirais aussi que j'ai été victime de violences sexuelles. J'ai été traumatisée. Moi-même, je voulais même parvenir à me suicider. Voilà pourquoi je connais le problème de ces filles violées. Je connais comment est-ce qu'elles sont discriminées. Mmh. Voilà pourquoi j'ai eu cette idée de créer ce foyer pour filles. Mmh. Parce que ce sont des gens qui sont traumatisés.
Oui.
Ce sont des gens qui sont donc elles ne savent pas à quel sens se vouer. Et pire encore, ce sont le membre de leur famille, leurs parents qui le rejettent. Parce qu'ils ne peuvent même pas les écouter. Parce que chez nous ici, plus on a de filles, plus on a un nombre de vaches. Donc le nombre de filles est comparé au nombre de vaches. Alors quand une fille est violée, on en a plus besoin. On a plus intérêt, les parents n'ont plus vraiment intérêt à la garder. Mmh. Voilà pourquoi plusieurs filles, après cet acte-là, sont vraiment rejetées. Mmh.
Alors, le viol à l'est de la RDC, pas seulement d'ailleurs à l'est, hein, les médias se sont vraiment emparés de ce sujet, les ONG, les organisations internationales. Il y a énormément de projets qui se sont créés également pour aider à la fois ces jeunes filles à se reconstruire, à porter plainte. Quelle est l'originalité de votre projet de ce foyer pour abriter des jeunes filles?
Je dirais que, d'abord, je n'ai jamais entendu parler de foyer pour héberger ces filles-là. Mm. Ce qui m'a vraiment beaucoup touché, ce sont des filles de moins de 15 ans qui sont violées. Il y a même des bébés de 7 mois qui sont violées dans le territoire de Routou et puis à Kavumu. Mm. Ce sont des gens que j'ai rencontrés et qui sont jusque-là sans abri. Bien sûr qu'il y a des hôpitaux qui soignent, mais ils ne les hébergent pas. Quand après le soin, ces femmes rentrent dans leur milieu. Mais ce n'est pas le cas de ces filles-là. Ce sont des filles qui sont violées, mais qui sont sans abri parce qu'elles sont rejetées par leur famille, même quand elles sont déjà soignées.
Oui,
alors moi, je me suis dit, il fallait que nous puissions les héberger. Parce que ce sont des gens qui, comme elles n'ont plus d'abri, elles ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a d'autres qui vont dans la ville, elles cherchent de travail pénible. Elles sont dans des familles, elles sont bonnes dans des familles.
Oui.
Et là, elles sont encore plus exposées au viol.
Exposées au viol et aux violences sexuelles. Alors, Jocelyne, je voudrais quand même rappeler votre expertise, parce qu'à 9 ans, vous avez été défenseur des droits de l'enfant au Parlement des enfants de Goma avec l'UNICEF. Vous avez, pour monter ce projet, mené des étapes de sensibilisation auprès des parents de victimes pour qu'ils protègent leurs filles plutôt que de les rejeter. Vous avez visité des hôpitaux aussi pour obtenir des soins gratuits pour les filles. Vous avez récolté un petit peu d'argent en vue de la construction du foyer, mais évidemment, ça n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'animateurs, de psychologues, et évidemment, surtout, vous avez besoin d'un financement. Vous évaluez le projet pour qu'il fonctionne, ce foyer de 50 jeunes filles, à combien par an?
Donc, après, j'essaie un peu de calculer. Bon, le budget, c'est arrivé jusqu'à 46 404,5 $ pour que nous mettions en œuvre ce projet durant une année. Mmh. Donc, nous avons besoin de ces fonds pour louer une maison. Mmh. Et l'équiper.
Donc vous dites à peu près 40 000 $ pour faire fonctionner ce foyer pour un an, hein, c'est bien cela?
Non, c'est 146 000 $.
Oui. D'accord. Alors, Jocelyne, restez en ligne avec nous. Nous avons contacté l'UNFPA à Dakar. Bonjour, Jocelyne Fénard. Jocelyne Fénard, êtes-vous en ligne avec nous à Dakar?
Oui,
bonjour Jocelyne Fénard. Oui. L'UNFPA, je le rappelle, hein, c'est le Fonds des Nations Unies pour la Population, et vous êtes conseiller régional chargé des partenariats. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment l'UNFPA ou d'autres organisations internationales se coordonnent ou travaillent pour financer des projets? Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, le projet de Jocelyne n'a pas encore démarré, même si le projet est solide. Quels sont vos critères pour financer des projets de ce type, par exemple à l'est de la RDC?
D'accord. Peut-être tout d'abord rappeler que nous travaillons sur des programmes qui sont construits en partenariat avec les gouvernements.
Bien sûr.
Donc dans ce cadre-là, nous déléguons effectivement une partie de ces programmes à ce que nous appelons nos partenaires de mise en œuvre, qui peuvent être soit des parties gouvernementales, soit des ONG internationales, soit des ONG locales. Et donc nous essayons de travailler avec elles pour la mise en œuvre de parties de nos programmes. Mmh. Donc il faut vraiment que ça rentre dans le cadre effectivement de nos orientations, de notre mandat et de nos actions. Nous ne travaillons pas en fait avec des individus. Et la plupart du temps, nous déléguons à des organisations. Et donc pour cela, je dirais que c'est assez simple. Une organisation qui travaille dans notre domaine, qui est établie, peut nous contacter et nous rentrons en discussion et nous voyons si nous pouvons lui confier effectivement une partie de nos programmes. Mmh. Voilà, donc c'est assez simple.
Ça veut dire pour que cela, le projet de Jocelyne doit être d'abord légalement constitué en ONG?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mmh. Hein, puisque nous ne nous engageons pas, nous ne pouvons pas nous engager avec des individus pour des programmes. Hein, nous avons des consultants qui mènent des études, par exemple, mais vraiment pour la réalisation pratique, nous travaillons avec des organisations.
Lorsque vous travaillez avec ces partenaires de mise en œuvre, comme vous les appelez, est-ce que vous travaillez exclusivement avec des projets qui fonctionnent déjà depuis un moment ?
Alors, pas forcément. Ça peut être effectivement des gens qui apportent des nouvelles idées, qui apportent des nouvelles méthodes de mise en œuvre, qui vont nous intéresser parce que justement, elles vont nous permettre d'être plus efficaces dans nos programmes. Et donc c'est vraiment une discussion qui doit s'engager localement. Donc j'encouragerais peut-être Jocelyne à prendre contact avec notre bureau de RDC. Je crois qu'il y a une antenne à Goma, donc ça peut être facile. Et de discuter avec eux, de présenter ce projet, de présenter son expérience, qui est extrêmement riche et à mon avis très intéressante pour nous. Et de voir comment il peut y avoir une discussion qui va plus loin.
Merci beaucoup pour ces explications, Jocelyn Fénard de l'UNFPA, donc le Fonds des Nations Unies pour la population. Didier Akwété, Régis Facia, sur ce projet humanitaire, Didier Akwété, de temps en temps on a des projets humanitaires et il est intéressant aussi d'avoir un point de vue comme le vôtre.
Non, effectivement, bon, c'est vrai que ce projet c'est le plus humanitaire que nous ayons eu jusqu'à présent dans l'émission et qui est un sujet assez grave. Alors, le point de vue justement de l'UNFPA est intéressant et la plupart de ces organisations fonctionnent comme ça. Donc le projet de Jocelyne, à mon avis, ne trouverait des financements prioritaires aujourd'hui que si elle s'adresse par exemple à des entreprises. Exemple, ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises qui aujourd'hui opèrent en RDC, dans les mines par exemple, qui gagnent beaucoup d'argent pour certaines et qui doivent, en guillemets, give back, c'est-à-dire rendre aux sociétés ce qu'elles prennent. Ça peut être un partenariat plus direct avec des entreprises qui peuvent subventionner son projet dans le cadre de la RSE. Alors deuxièmement, je pense que Jocelyne toute seule comme ça a porté ce projet, bien sûr, c'est émouvant, c'est séduisant, c'est important, mais je crois que si elle arrive à s'entourer de quelques parrains, par exemple, vous savez le docteur
Mukwege,
qui soigne les femmes victimes de viol,
si régulièrement par exemple, sur cette antenne chez Priorité Santé,
elle arrive justement à avoir un parrain comme ce médecin ou d'autres personnalités qui peuvent l'aider à porter le projet, elle arrivera à mobiliser plus rapidement des financements et à rendre le projet plus crédible. Pas que le projet n'est pas crédible, mais l'ayant jamais fait, étant seule, étant jeune, forcément, on lui accorde pas beaucoup de crédit, même si le projet est extrêmement intéressant. Donc, trouver des parrains, ça va l'aider. Approcher des entreprises qui
même
aujourd'hui...
Même si ce ne sont pas des parrains sur le plan financier.
Non, pas financier. Non. C'est ce qu'on appelle un advisory board ou un conseil stratégique ou de gouvernance qui vont crédibiliser un peu plus son projet et permettre aux entreprises ou même aux ONG ou à des fondations, et j'allais parler aussi des fondations qui subventionnent en fait des projets humanitaires, des projets sociaux, ça peut l'aider à aller beaucoup plus vite et puis surtout qu'elle utilise Internet parce que c'est un beau projet, c'est vrai, il donne une caisse de résonance.
Qui touche en tout cas effectivement un problème qui est maintenant tellement relayé, tellement pris en compte que ça peut donner suite pour des financements.
Absolument,
c'est clair,
et puis sous réserve de ce que prévoit la loi au Congo en termes de mobilisation de l'épargne publique, en postant sur Internet des demandes de dons, de subventions aux individus, on appelle ça crowdfunding dans le business, mais on peut tout à fait faire du crowdfunding.
Imagine ça pour un projet humanitaire.
Sur un projet humanitaire, où j'ai même déjà suivi des reportages de personnes qui donnent de l'argent pour des projets à caractère humanitaire.
Alors, c'est vrai que, pour rejoindre un peu ce que Didier dit, pour confirmer un peu ce que Didier dit, il y a une chose qu'il faut savoir aujourd'hui au niveau des entreprises. Beaucoup d'entreprises, surtout les grosses entreprises aujourd'hui, disposent de fondations. Que ce soit MTN, que ce soit les opérateurs de téléphonie mobile, par exemple au Bénin, il y a de grosses entreprises qui ont des fondations. Et le rôle de ces fondations-là, justement, c'est d'accompagner de telles initiatives. Et c'est vrai que moi, je salue cette initiative de Jocelyne. Et
Alors, il vaut peut-être mieux aller voir de la téléphonie mobile plutôt que des entrepreneurs dans les mines, hein, parce que c'est un de responsabilité sociale des entreprises.
Oui, mais sauf qu'ils ont beaucoup d'argent,
ils ont beaucoup plus d'argent,
ils rachètent un peu leur conscience.
On voit bien l'homme d'affaires pragmatique.
Ils donnent de l'argent du coup.
Tout à fait. Dans tous les cas, les entreprises privées aussi peuvent accompagner ce type de projet via des fondations qu'elles ont et qui justement accompagnent ce type d'initiative.
Jocelyne, est-ce que tous les conseils que vous avez entendus peuvent éventuellement vous aider à enfin concrétiser ce très beau projet de foyer pour jeunes filles victimes de violences sexuelles qui s'appellera Hope à Goma?
Oui, ça pourrait m'aider. Et j'ai oublié de mentionner que je travaille dans une organisation. Donc, je conduis le programme Club de défenseurs de droits de la fille dans une organisation Habitat pour tous.
Oui, c'est ça. Vous avez un vrai parcours, en tout cas, extrêmement légitime. Et donc, votre projet, il n'y a pas de raison qu'il aboutisse pas. On vous souhaite bonne chance. Vous nous tenez au courant, surtout, Jocelyne, hein, de l'avancée de votre projet. Vous savez qu'on aime avoir de vos nouvelles quelques mois après pour savoir si vous parvenez à concrétiser ce foyer pour jeunes filles. Très bonne journée, très bonne chance, Jocelyne. À Goma, vous avez 26 ans seulement.
Bravo, voilà. Jocelyne.
Ouais, bravo. Bravo.
33. Merci beaucoup.
Allez, bonne journée à Goma. 33 1 84 22 71 71. On donne la parole très rapidement à Clémence qui est à Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Clémence.
Bon, c'est pas un projet humanitaire, j'espère. Hein.
Non.
On revient au business un peu là.
Clémence, bonjour.
Mais il faut de l'humanitaire aussi.
Oh, je plaisante évidemment.
Clémence, êtes-vous en ligne à Ouagadougou au Burkina? On essaye de joindre Clémence. Alors sinon, je vais poser sa question. Alors c'est très simple. Clémence, c'est un business qui marche bien. C'est un petit business, hein, mais c'est comme ça aussi qu'on fait avancer le grand business, un tissu de PME. Elle a une boutique de vêtements à Ouagadougou. Elle a commencé tout simplement avec des cours de couture, etc. Aujourd'hui, tous ses crédits sont remboursés. Bravo. Son entreprise est rentable. Elle a un vrai problème qui est, c'est qu'elle ne, je pense que ça va vous parler, elle ne parvient pas à garder ses employés. Elle a 4 employés et une apprentie. Elle voulait nous poser la question, vous poser la question, vous entrepreneurs, comment faire en sorte de garder ses employés, comment les conserver sur la durée. Elle dit, ils partent trop vite.
Ah, ça c'est le problème de toutes les entreprises.
Oui.
Régis peut-être nous éclaira aussi.
Ben, je pense que si
Clémence,
effectivement...
vous êtes en ligne avec nous?
Oui,
Clémence. Voilà, on avait un problème pour vous avoir au téléphone, mais je crois que j'ai bien résumé hein, votre souci de garder sur la durée vos employés. Vous trouvez qu'il y a trop de, comme on dit dans le business, de turnover en fait, hein, y compris pour des personnes que vous avez formées, qui sont aujourd'hui qualifiées et qui d'un coup s'en vont. Régis Fassier, entrepreneur, vous donne quelques analyses.
Mais déjà, si effectivement il y a un turnover aussi important, ça veut dire qu'il faut déjà que vous-même vous fassiez une analyse et voir un peu ce qui se passe déjà à votre niveau. Moi, je pense que c'est la première chose, parce que généralement, lorsque les employés s'en vont, ça veut dire qu'il y a un malaise au niveau de l'entreprise. Donc, il me paraît extrêmement important, en ce qui vous concerne, de faire en sorte que vous puissiez quand même vous-même, en toute humilité, en toute objectivité, voir ce qui ne va pas au niveau de votre gestion. Alors, vous savez, il y a de petites astuces, de petites techniques pour fidéliser les employés. Ça passe d'abord par une rémunération conséquente. Ça passe par le respect, je dirais, de tout ce qui est droit social et fiscal par rapport à l'employé. Et ça passe par la capacité de cet employé à se projeter dans l'avenir. Je pense que lorsqu'un employé se sent stable, se sent sécurisé dans un environnement professionnel, il n'y a pas de raison qu'il vous quitte. Donc, il vous revient, madame, de faire en sorte que vous puissiez vous-même faire une analyse et de veiller à ce que la plupart des choses auxquelles les employés s'attendent puissent être, je dirais, offertes à ces employés-là. Et vous verrez que le turnover va progressivement diminuer. Didier, qui recrute beaucoup de gens, qui fait beaucoup dans les ressources humaines, peut apporter encore plus de précision de mon point de vue.
Clémence?
Oui.
Est-ce que vous êtes en mesure de proposer un salaire susceptible de fidéliser vos employés ou est-ce que c'est trop compliqué pour vous parce que sinon vous n'êtes plus rentable?
Bon, proposer un salaire, on fait sur contrat. C'est-à-dire, ils sont payés en fonction de leur travail.
C'est ça, ils sont payés à la tâche, finalement.
Hein? Ça veut dire quoi, concrètement?
Oui, ils sont payés à la tâche. Parce que j'ai déjà été avec le salaire fixe.
Oui.
Et je me suis rendu compte que ça ne rentabilisait pas.
Oui, mais est-ce que le salaire fixe respecte les salaires en vigueur?
Oui, vous avez entendu la question de Régis Fassia. Est-ce que le salaire à la tâche, aux vêtements réalisés, est suffisamment intéressant pour eux et se retrouve à peu près dans les standards des salaires sur place?
Oui, ça dépasse même les SMIC au Burkina. Ils peuvent atteindre 40 à 45, 50 de fois.
D'accord. Néanmoins, ça permet pas effectivement ce que vous disiez, Régis Fascia, aux tailleurs qui sont employés par Clémence, de se projeter dans l'avenir finalement.
Et voilà, hein, tout à fait, c'est vrai. Maintenant, il n'y a pas que le salaire aussi qui motive un employé. Il y a aussi le comportement, il y a les attitudes, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut peut-être essayer de revoir. Et là-dessus, j'aimerais quand même avoir l'avis de Didier Acoueté, qui est un excellent expert.
Vraiment en deux mots, parce qu'après on va prendre des nouvelles d'un
projet. Non, mais Régis a parfaitement résumé en fait la puisque ce n'est pas que dans les petites entreprises ou les TPE comme les vôtres, même dans les grosses entreprises. C'est-à-dire, si vous avez un projet d'entreprise à partager avec vos employés qui participent également et qui voient qu'il y a pour eux un avenir
à rester
chez vous.
Alors ça peut être un petit projet, partager un défilé, quelque chose comme ça, finalement,
oui,
participer
Bien sûr, ou même le fait de leur dire, dans un an, si vous restez avec moi, vous pourrez créer même votre propre atelier, pourrez me livrer. Donc il faut vraiment comprendre les motivations de vos employés et aussi comment ils peuvent partager votre projet d'entreprise. Et ça, c'est vraiment la base. Et même nous, quand nous recrutons les candidats, alors où c'est des mercenaires, ils vont pendant 12 mois, ils savent qu'ils vont juste chercher quelque chose et repartent, ou ils veulent rester dans une entreprise. Et la première question, quel est le projet développant de l'entreprise et comment je participe à ce projet? Même si vous êtes une boutique, vous êtes un atelier, c'est valable également. Comment vous faites participer vos employés à votre projet? Alors, vous savez, parfois, il y a aussi des modèles d'entreprise qui sont sujets à des turnovers élevés. Si c'est le cas de votre industrie, il faut simplement que vous prépariez en conséquence et que vous sachiez que le délai moyen de rétention des employés, c'est 6 ou 12 mois. Il y a des industries comme ça. À vous de voir si c'est le cas chez vous ou pas du tout.
Alors, dernière chose, il y a une chose qu'il faut savoir, Clément, c'est que lorsqu'une activité marche, les employés, ils le voient. Ils sentent bien que ça marche. Et par conséquent, ils ont aussi besoin de profiter, je dirais, des ressources que génère cette entreprise qui marche. Donc, tenez compte aussi du fait que si votre entreprise marche, eh bien, les employés aussi ont le droit, de façon tout à fait légitime, et là, je parle en tant que chef d'entreprise, de pouvoir bénéficier des fruits de cette expansion.
Concrètement,
cette
ça veut dire quoi? Une petite prime à la fin de l'année, c'est ça?
Concrètement, ça veut dire une petite prime à la fin de l'année.
Pas
à la fin de l'année. Moi, parce que vous savez, je vous dis une chose. On n'a rien inventé de mieux que la rémunération pour motiver quelqu'un.
Ça sera le mot de la fin. Bonne chance, Clémence, pour faire avancer cette petite entreprise de création de vêtements à Ouagadougou, au Burkina Faso. Didier Acoueté, Régis Fascia, quel bilan là concernant ces projets des jeunes?
C'est comme souvent, c'est des projets assez variés. Bon, le premier projet est le plus stimulant, en tout cas économiquement, parce que ça répond à un vrai besoin du marché
une
aujourd'hui.
Une start-up qui crée une banque d'images d'illustration africaine pour le continent africain.
Exactement. Et donc là, nous sommes simplement en pleine stratégie. Donc c'est vraiment de la stratégie de développement qui est en question ici. Mais le projet est beau. Le deuxième projet, plus humanitaire, comme on en a de temps à autre, est assez particulier, quoi. Et je pense que les conseils que nous avons donnés peuvent peut-être servir à Jocelyne. Et puis bon, sur la boutique, je pense qu'on peut faire mieux, quoi.
Régis Fascia, aujourd'hui, moi j'aimerais revenir à votre projet créé il y a 20 ans maintenant, Top Chrono, avec votre entourage familial, même si vos parents eux-mêmes n'y croyaient pas. Vous avez démarré avec une petite mise de fonds. Aujourd'hui, vous êtes présent dans plusieurs pays, pas seulement le Bénin. Quels ont été les principaux obstacles que vous avez finalement traversés là, durant ces 20 années et que vous traversez encore, j'imagine, aujourd'hui?
Oui, je pense que le premier obstacle, c'est l'environnement social. Vous savez, lorsque aujourd'hui j'écoute tous les mois votre émission avec le coach Didier Acoueté, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est la façon dont les choses ont changé aujourd'hui. Il y a 20 ans, très peu de gens peuvent imaginer créer. Aujourd'hui, les gens posent des questions, ils ont des projets, ils ont des initiatives de création d'entreprises, et ça montre effectivement la vitalité de l'environnement économique dans lequel aujourd'hui nous portons, nous projetons.
Mais les barrières ne sont pas toutes tombées. Par exemple, vous faites de la poste privée, vous livrez des colis à domicile, vous êtes heurté, vous continuez de vous heurter à du protectionnisme, à des postes publics,
Non, de moins en moins aujourd'hui, parce que nous sommes dans un système de libéralisation. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins, je dirais, qu'il y a quelques années. Mais dans tous les cas, il est évident que, quelle que soit l'idée que les jeunes ont en Afrique, il y a toujours un frein parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre, je dirais, notre façon de voir les choses. Et c'est pour cela que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Lorsque des jeunes, aujourd'hui, ont envie de créer, il faut que, dès le bas âge, on leur apprenne ce genre de choses souvent au Ghana, par exemple, on apprend aux jeunes à créer. Dans les pays francophones, c'est encore moins présent. Donc, il faut que dans les programmes scolaires, dans les programmes universitaires, eh bien, qu'on intègre, qu'on insère un ensemble, je dirais, de modules qui permettent déjà à l'apprenant de commencer à réfléchir sur l'éventualité d'une création d'entreprise. Il y a un an, j'étais au salon de Didier Akwété, j'ai vu le nombre de monde qu'il y avait. C'est des gens qui cherchent des emplois. Alors moi, je me dis, toutes ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'ils envisagent créer une entreprise? Je pense qu'il faut que nous puissions progressivement...
Il n'y aura plus personne dans les salons
d'Afrique Sœur. Il y en aura toujours des gens. Dans tous les cas, il faut que nous puissions créer dans la tête des apprenants l'initiative de la créativité.
Vous trouvez qu'aujourd'hui, ça serait plus facile de créer votre entreprise Top Chrono qu'il y a 20 ans?
Mais bien évidemment, déjà le temps. Aujourd'hui, il faut, quand je prends un pays comme le Bénin, il faut 2 jours, 24 heures pour créer une entreprise aujourd'hui. Il faut moins d'1 million, il faut 15 000 francs CFA pour créer aujourd'hui.
Oui, mais l'accès au foncier est plus difficile, les loyers sont très chers aujourd'hui pour avoir des bureaux, par exemple, y compris dans une ville comme Cotonou.
Oui, mais c'est une réalité. Mais il y a une chose qui est importante, comme je l'ai dit tout à l'heure à Moussa, faut pas faire l'impasse sur la notion de temps. On commence progressivement, on commence petitement, et après, on évolue dans le temps, en essayant de faire en sorte qu'on puisse respecter le métier pour lequel on a choisi de s'investir.
Vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Didier Akwété. Didier Akwété, on le rappelle, Afrique Talent à Abidjan dans
les
deux 19 semaines.
19 et 20 juin.
19 et 20 juin.
Absolument.
À Abidjan. Pour avoir plus de renseignements, Afrique Talent, bien sûr,
sur le site. Et puis, je fais mes amitiés aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent dans la commune de Meke, au nord-ouest du Sénégal, entre Saint-Louis et Thiès.
L'émission a été préparée par Jonas Malé-Solars, à la technique Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, vieillir dans les pays du Sud. Comment évolue la solidarité avec les personnes âgées dans votre pays? Appelez-nous dès maintenant.